En ce vendredi saint, nous retrouvons l'abbé Philippe Baïtia. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de la croix du Christ, du culte de la croix. Symbole de la croix, il est présent dès le début, assez vite finalement, après la mort du Christ sur le Golgotha. On le retrouve au 3e, 4e siècle.
Enfin, certains auteurs en parlent 3e, 4e siècle. Il est bien possible, mais je n'ai pas tout vérifié, que il y a des auteurs antérieurs qui parlent de la croix, oui, très sûrement Saint Irénée ou Tertullien. Et semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, il y a dans les catacombes romaines, donc à un moment donné, une croix qui est gravée, même si ce n'est pas le symbole qui va être très très présent dans les catacombes. Il y en aura d'autres, mais il y a une croix qui est gravée.
Comme le poisson, par exemple.
Alors le poisson, oui, le poisson, c'est, ben voilà, à travers ce mot ictus qui signifie le poisson. Ben voilà, si vous prenez chacune des lettres, ça, en grec bien sûr, Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, donc le poisson est un signe de ralliement. Et il fait bien sûr allusion aussi à la pêche miraculeuse et au petit repas que le Christ ressuscité prépare en Saint-Jean pour ses disciples avec du pain et du poisson.
Quand la croix va devenir le symbole des chrétiens et quand va-t-on commencer à la vénérer ?
Alors, on a donc des témoignages de vénération de la croix entre les années 350 par là, notamment bien sûr à Jérusalem. Et le vendredi saint, il va y avoir, on a à Jérusalem donc les reliques de la croix, on a le bois de la croix, et donc il va y avoir une vénération de la croix et il va falloir prendre des mesures pour canaliser l'enthousiasme de certains chrétiens. Je vous lis ce que rapporte une pèlerine de l'époque, Éthérie ou Égérie, dont on a déjà, je crois, parlé. Voilà ce qu'elle dit. « On place alors un siège pour l'évêque au Golgotha, on apporte un coffret d'argent doré qui contient le symbole de la croix, on l'ouvre, on l'expose, on place sur la table et le bois de la croix et l'écriteau. Quand on les a placés sur la table, l'évêque assis appuie de ses mains sur les extrémités du bois sacré, et les diacres, debout tout autour, surveillent. Voici pourquoi cette surveillance. Il est d'usage que tout le peuple, tant fidèle que catéchumène, s'approche un à un, se penche sur la table, embrasse le bois sacré et passe. Or, on raconte que quelqu'un, je ne sais quand, y a mordu et y a volé un fragment du bois sacré. C'est pourquoi, maintenant, les diacres, debout alentour, surveillent ainsi pour qu'aucun de ceux qui approchent n'ose refaire de même. Tout le peuple défile donc un à un, chacun s'incline, touche du front, puis des yeux, la croix et l'écriteau, embrasse la croix et passe, mais personne n'étant la même pour la toucher. Voilà un peu ce qui se passe donc le vendredi saint à Jérusalem, que nous retrouvons un tout petit peu dans nos liturgies aujourd'hui avec la vénération de la croix le vendredi saint.
Les reliques de la croix, on en trouve partout dans le monde aujourd'hui.
Dès l'Antiquité, ce sont des reliques prestigieuses. On va rechercher ces reliques de la croix. Voilà, on va les mettre dans des anneaux, enfin ce genre de choses. Et effectivement, bon, vous avez des reliques de la croix, notamment à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Vous avez une espèce de petit musée où sont exposées des reliques de la croix, mais enfin, il y en a un tout petit peu partout. Et aussi, dans certaines églises, je pense qu'ici à Bayonne ou dans le diocèse, on doit avoir ce qu'on appelle les lignum crucis, c'est-à-dire, voilà, dans une espèce d'ostensoir, un tout petit fragment, voilà, de la vraie croix.
Je peux vous dire qu'il y en a un à Espelette.
Voilà.
Mais est-ce qu'on est sûr que c'est la vraie croix ?
Ben, d'ordinaire, c'est authentifié. D'ordinaire, on demandait de ces reliques à Rome. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une authentique. Un écrit d'un évêque ou d'un cardinal avec son sceau qui authentifie la chose.
Les reliques de la croix donc, sont vénérées surtout le vendredi saint. Mais il y a une autre fête où on célèbre la croix dans l'église, c'est le 14 septembre.
Alors, oui, on célèbre la croix le 14 septembre, exaltation à Sainte-Croix. Jusqu'en 1960, on avait, si j'ose dire, une troisième fête de la croix, le 3 mai, l'invention de la Sainte-Croix. la trouvaille, en quelque sorte, de la croix du temps de Sainte-Hélène. Bon, en 1960, on a commencé à normaliser peut-être un peu trop la liturgie. On trouvait qu'on en supprimait toutes les fêtes qui étaient dédoublées. Et on a supprimé cette fête du 3 mai, fête printanière, qui nous venait des Gaules. Et on a gardé, bien sûr, la vieille fête du 14 septembre, qui est célébrée par toute l'Église en Orient, en Occident.
Et cette fête du 14 septembre, elle date de quelle époque ?
Oh ben déjà dans le 4e, 5e siècle, vous avez une attestation de cette fête.
Alors, vous voulez nous partager aussi le témoignage d'un père de l'Église ?
Voilà. Donc, Saint Cyril de Jérusalem, évêque donc de Jérusalem, hein, dans ces années-là, 350-387, donc il va préparer les catéchumènes, et pour préparer les catéchumènes, il va commenter le credo, et notamment, voilà, il a été crucifié et il est mort. Et donc, c'est l'homélie 13. Et donc, il va nous présenter divers aspects du mystère. Il va nous dire que le Christ est venu librement à sa passion, heureux de son exploit, un peu comme un sportif, joyeux de son triomphe, se réjouissant de sauver les hommes. Il n'a pas eu honte de la croix, car il apportait le salut au monde. Ce n'était pas un pauvre homme qui souffrait, mais Dieu fait homme qui allait combattre pour obtenir le prix de l'obéissance. Une allusion, bien sûr, à Philippiens 2. Il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Saint Cyril va commenter l'épisode de Luc 23:6-7 où Pilate envoie Jésus à Hérode et où tous deux, nous dit l'évangéliste, devinrent amis, eux qui auparavant étaient ennemis. Voilà ce qu'en tire Saint Cyril. Il fallait que celui qui devait établir la paix entre le ciel et la terre établisse d'abord la paix entre ceux qui devaient le condamner. Il montrait ainsi qu'il était le Seigneur qui réconcilie les cœurs des princes de la terre. Voilà ce qu'a souffert le Sauveur. Par le sang de la croix, il a établi la paix entre le ciel et la terre. Nous étions devenus des ennemis de Dieu par le péché, et Dieu avait décidé que le pécheur devait subir la mort. Il se trouvait devant l'alternative suivante, ou logique envers lui-même, le Seigneur frappait de mort tous les pécheurs, ou sa clémence suspendait la sentence qui nous atteignait. Voilà la sagesse de Dieu, il a maintenu sa sentence tout en écoutant sa miséricorde. Le Christ a pris les péchés en son corps sur le bois, afin que par sa mort nous mourions à nos péchés et nous vivions pour la justice. Il n'était pas d'un petit prix, celui qui mourait pour nous. Ce n'était pas simplement un homme, ce n'était pas un ange. C'était le Dieu fait homme. L'iniquité des pécheurs n'était pas telle qu'elle dépassait la justice de celui qui mourait pour nous. La justice de celui qui a donné sa vie pour nous dépasserait notre péché. Voilà un peu ce que il commente en envisageant cet épisode où Pilate et Hérode se réconcilient. Et puis, il va méditer aussi sur l'épisode du bon larron. Et il va noter que le bon larron a connu en même temps la fin de sa vie et le commencement de sa conversion. Au moment où il allait rendre l'âme, il a bénéficié du salut avant tout le monde. Quelle est la lumière, larron, qui t'a éclairé ? Qui donc t'a instruit pour que tu adores celui qui a été méprisé et crucifié avec toi ? N'est-ce pas cette lumière qui illumine ceux qui gisent dans les ténèbres ? C'est avec raison que tu entends la parole du Christ et confiance. Non parce que tes œuvres doivent te donner confiance, mais parce que le roi est là et t'accorde sa faveur. Ta demande concernait le jour où le Christ viendrait dans son royaume, mais la grâce était très rapide. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, car c'est aujourd'hui que tu as entendu ma voix et tu n'as pas fermé ton cœur. Contrairement à Adam, tu as obéi aujourd'hui par la foi, aujourd'hui te vient le salut. Abraham, le fidèle, n'est pas encore entré dans le paradis, et le larron y est entré. Moïse et les prophètes n'y sont pas encore entrés, et le larron inique y entre. Et Paul, rempli d'admiration de ce qui arrive, s'écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Et Saint Cyril va donc appliquer cela aux catéchumènes, hein, donc il parle à ceux qui se préparent au baptême, qui vont le recevoir dans la nuit pascale. Et il leur dit que à ceux qui croient, le salut est donné par l'eau. Il y a une double force du baptême, manifestée par le sein et l'eau qui jaillissent du côté du Christ. La première atteint ceux qui sont baptisés, la seconde les martyrs en temps de persécution. On n'est pas très loin du temps des persécutions. Elle les fortifie dans la confession de leur foi.
Donc c'est une homélie de Saint Cyrille de Jérusalem, voilà. Au IVe siècle. Merci pour ce partage, Abbé Philippe Beita, et nous nous retrouverons demain, samedi saint. Merci à vous.